marche. Pierre Ménard, auteur du Don Quichotte, à Silvana Ocampo. L'œuvre visible qu'a laissée ce romancier peut être facilement et brièvement passée en revue. Impardonnables par conséquent sont les omissions et les additions perpétrées par Madame Henri Bachelier dans un catalogue fallacieux qu'un certain journal, dont la tendance protestante n'est pas un secret, a irrespectueusement infligé à ses déplorables lecteurs, d'ailleurs en petit nombre et calvinistes, sinon francs-maçons et circoncis. Les amis authentiques de Ménard ont vu ce catalogue avec une inquiétude et même avec une certaine tristesse. Hier, pour ainsi dire, nous nous réunissions devant le marbre final sous les cyprès funestes et déjà l'erreur essaie de ternir sa mémoire. Décidément, une brève rectification s'impose. Je sais qu'il est très facile de récuser ma pauvre autorité. J'espère pourtant qu'on ne m'interdira pas de citer deux hauts témoignages. La baronne de Bacour, au cours des vendredis inoubliables de qui j'eus l'honneur de connaître le regretté poète, a bien voulu approuver les lignes qui suivent. La comtesse de Bagnoregio, un des esprits les plus fins de la principauté de Monaco et maintenant de Pittsburgh, en Pennsylvanie, depuis son récent mariage avec le philanthrope international Simon de Coates, a sacrifié à la véracité et à la mort, ce sont ses propres termes, la réserve princière qui la caractérise et, dans une lettre ouverte publiée par la revue Luxe, m'accorde également son approbation. Ses titres de noblesse, je pense, ne sont pas insuffisants. J'ai dit que l'œuvre visible de Ménard peut être facilement dénombrée. Après avoir examiné soigneusement ses archives particulières, j'ai constaté qu'elles comprennent les pièces suivantes. Petit A, un sonnet symboliste qui parut deux fois, avec des variantes, dans la revue La Conque. Petit B, une monographie sur la possibilité de constituer un vocabulaire poétique de concepts qui ne seraient pas des synonymes ou des périphrases de ceux qui forment le langage courant, mais des objets idéaux, de conventions, destinés essentiellement aux besoins poétiques. Petit C, une monographie sur certains rapports ou certaines affinités entre la pensée de Descartes, de Leibniz et de John Wilkins. Petit D, une monographie sur la Characteristica Universalis de Leibniz. Petit E, un article technique sur la possibilité d'enrichir le jeu d'échecs en éliminant un des pions de la tour. Ménard propose, recommande, discute et finit par rejeter cette innovation. Petit F, une monographie sur l'Ars Magna Generalis de Raymond Lull. Petit G, une traduction avec prologue et notes du livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs de Ruiz López de Segura. Petit H, les brouillons d'une monographie sur la logique symbolique de George Ball. Petit I, un examen des lois métriques essentielles de la prose française, illustré d'exemples tirés de Saint-Simon. Petit J, une réplique à Luc Durtin, qui avait nié l'existence des dites lois, illustré d'exemples tirés de Luc Durtin. Petit K, une traduction manuscrite de la Aguja de Navegar Cultos de Quevedo, intitulée La boussole des précieux. Petit L, une préface au catalogue de l'exposition de lithographie de Carolus Hurcade. Petit M, l'ouvrage Les problèmes d'un problème, qui discute dans l'ordre chronologique les solutions du fameux problème d'Achille et de la tortue. Deux éditions de ce livre ont paru jusqu'à présent. La deuxième porte en épigraphe le conseil de Leibniz, ne craignez point monsieur la tortue, et renouvelle les chapitres consacrés à Russell et à Descartes. Petit N, une analyse obstinée des coutumes syntaxiques de Toulet, NRF, mars 1921. Ménard, je me rappelle, déclarait que blâmer et faire l'éloge sont des opérations sentimentales qui n'ont rien à voir avec la critique. Petit O, une transposition en alexandrin du cimetière marin de Paul Valéry. Petit P, une invective contre Paul Valéry dans Les feuilles pour la suppression de la réalité de Jacques Reboul. Cette invective, soit dite entre parenthèses, est exactement à l'opposé de sa véritable opinion sur Valéry. C'est bien ainsi que celui-ci le comprit et leur ancienne amitié ne courut aucun danger. Petit Q, une définition de la comtesse de Bagnoregio dans le volume victorieux, la locution est d'un autre collaborateur, Gabriele D'Annunzio. le volume victorieux que cette dame publie annuellement pour rectifier les inévitables mensonges du journalisme et présenter au monde et à l'Italie un portrait authentique de sa personne si exposée, en raison même de sa beauté et de son activité, à des interprétations erronées ou hâtives. Petit R, un cycle d'admirables sonnets pour la baronne de Bacourt. Petit S, une liste manuscrite de vers qui doivent leur efficacité à la ponctuation. Voilà, sans autre omission que quelques vagues sonnets de circonstances pour l'album hospitalier de Madame Henri Bachelier, voilà l'œuvre visible de Ménard dans l'ordre chronologique. Je passe maintenant à l'autre, la souterraine, l'interminablement héroïque, la sans pareille, également, hélas, pauvre possibilité humaine, l'inachevé. Cette œuvre, peut-être la plus significative de notre temps, se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22. Je sais qu'une telle affirmation a tout l'air d'une absurdité. Justifier cette absurdité est le but principal de cette note. Deux textes d'inégale valeur m'ont inspiré cette entreprise. L'un est ce fragment philologique de Novalis, celui qui porte le numéro 2005 dans l'édition de Dresde, qui ébauche le thème de la totale identification avec un auteur déterminé. L'autre est un de ces livres parasitaires qui situent le Christ sur un boulevard, Hamlet sur la Canebière ou Don Quichotte à Wall Street. Comme tout homme de bon goût, Ménard avait horreur de ces mascarades inutiles, tout juste bonnes, disait-il, à procurer le plaisir plébéien de l'anachronisme, ou ce qui est pire, à nous ébaudir avec l'idée primaire que toutes les époques sont semblables ou différentes. Plus intéressant, bien que présentant des contradictions et réalisé superficiellement, lui semblait le fameux dessin de Daudet, conjugué en une figure, c'est-à-dire Tartarin, l'ingénieux Hidalgo et son écuyer. Ceux qui ont insinué que Ménard a consacré sa vie à écrire un Quichotte contemporain ont calomnié sa claire mémoire. Il ne voulait pas composer un autre Quichotte, ce qui est facile, mais le Quichotte. Inutile d'ajouter qu'il n'envisagea jamais une transcription mécanique de l'original. Il ne se proposait pas de le copier. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient mot à mot et ligne à ligne avec celles de Miguel de Cervantes. Mon dessin est purement stupéfiant, m'écrivit-il de Bayonne le 30 septembre 1934. Le terme final d'une démonstration théologique ou métaphysique, le monde extérieur, Dieu, la causalité, les formes universelles, n'est pas moins antérieur et commun que mon roman divulgué. La seule différence est que les philosophes publient dans des volumes agréables les étapes intermédiaires de leur travail et que moi, j'ai décidé de les perdre. Effectivement, il ne subsiste pas un seul brouillon qui témoigne de ce travail de plusieurs années. La méthode initiale qu'il imagina était relativement simple. Bien connaître l'espagnol, retrouver la foi catholique, guerroyer contre les Maures ou contre le Turc, oublier l'histoire de l'Europe entre les années 1602 et 1918, être Miguel de Cervantes. Pierre Ménard étudia ce procédé, mais il l'écarta, le trouvant trop facile. Plutôt impossible, dira le lecteur. D'accord, mais l'entreprise était a priori impossible, et de tous les moyens impossibles pour la mener à bonne fin, celui-ci était le moins intéressant. Être au XXe siècle un romancier populaire du XVIIe siècle lui sembla une diminution. Être en quelque sorte Cervantes et arriver au Quichotte lui sembla moins ardu, par conséquent moins intéressant, que continuer à être Pierre Ménard et arriver au Quichotte à travers les expériences de Pierre Ménard. Cette conviction, soit dit en passant, lui fit exclure le prologue autobiographique de la deuxième partie du Don Quichotte. Inclure ce prologue, c'était créer un autre personnage, Cervantes, mais c'était aussi présenter le Quichotte en fonction de ce personnage et non de Ménard. Naturellement, celui-ci ne voulut pas de cette facilité. « Mon entreprise n'est pas essentiellement difficile », lis-je ailleurs dans sa lettre. Il me suffirait d'être immortel pour la mener jusqu'au bout. Avouerai-je que je m'imagine souvent qu'il a réussi et que je lis le Quichotte, tout le Quichotte, comme si c'était Ménard qui l'avait conçu. Il y a quelque Soir, en feuilletant le chapitre 26, qu'il n'a jamais essayé d'écrire, je reconnus le style de notre ami, et comme sa voix, dans cette phrase exceptionnelle, « les nymphes des rivières, la douloureuse et humide écho ». Cette conjonction efficace d'un adjectif moral et d'un adjectif physique me rappelle un vers de Shakespeare que nous discutâmes un jour, « where a malignant and a turbaned Turk ». Pourquoi ? Précisément le Quichotte, dira notre lecteur. Cette préférence chez un Espagnol n'aurait pas été inexplicable, mais elle l'est sans doute chez un symboliste de Nîmes, essentiellement dévot de Pau, qui engendra Baudelaire, qui engendra Mallarmé, qui engendra Valéry, qui engendra Edmond Test. La lettre précitée éclaircit ce point. Le Quichotte, explique Ménard, m'intéresse profondément, mais il ne me semble pas, comment dirais-je, inévitable. Je ne peux imaginer l'univers sans l'exclamation d'Edgar Allan Poe, « A bare mind, this garden was enchanted », ou sans le bateau ivre ou l'ancien marinaire. Mais je me sais capable de l'imaginer sans le Quichotte. Je parle naturellement de ma capacité personnelle, non de la résonance historique des œuvres. Le Quichotte est un livre contingent. Le Quichotte n'est pas nécessaire. Je peux préméditer sa composition, je peux l'écrire sans tomber dans une tautologie. À 12 ou 13 ans, je l'ai lu, peut-être intégralement. Puis, j'ai relu attentivement quelques chapitres, ceux que je n'essaierai pas d'écrire pour le moment. J'ai étudié aussi les entremesses, les comédias, la Galatée, les nouvelles exemplaires, les travaux sans aucun doute laborieux de Persil et Sigismond, et le voyage au Parnasse. Mon souvenir général du Quichotte, simplifié par l'oubli et l'indifférence, peut très bien être équivalent à la vague image antérieure d'un livre non écrit. Une fois postulée cette image, qu'en toute justice personne ne peut me refuser, il est indiscutable que mon problème est singulièrement plus difficile que celui de Cervantes. Mon complaisant précurseur ne repoussa pas la collaboration du hasard. Il composait l'œuvre immortelle, un peu à la diable, entraînée par la force d'inertie du langage et de l'invention. Moi, j'ai contracté le mystérieux devoir de reconstituer littéralement son œuvre spontanée. Mon jeu solitaire est régi par deux lois diamétralement opposées. La première me permet d'essayer des variantes de type formel ou psychologique. La seconde m'oblige à les sacrifier au texte original et à raisonner cet anéantissement avec des arguments irréfutables. À ces entraves artificielles, il faut en ajouter une autre, congénitale. Composer le Quichotte au début du XVIIe siècle était une entreprise raisonnable, nécessaire, peut-être fatale. Au début du XXe siècle, elle est presque impossible. Ce n'est pas en vain que se sont écoulées 300 années pleines de faits très complexes, parmi lesquels, pour n'en citer qu'un, le Quichotte lui-même. Malgré ces trois obstacles, le fragmentaire Quichotte de Ménard est plus subtil que celui de Cervantes. Celui-ci oppose grossièrement aux fictions chevaleresques la pauvre réalité provinciale de son pays. Ménard choisit comme réalité le pays de Carmen pendant les siècles de Lépante et de Lope de Vega. Quelles espagnolades ce choix n'aurait-il pas conseillé à Maurice Barrès ou au docteur Rodriguez Larreta ? Ménard, avec un grand naturel, les élude. Dans son ouvrage, il n'y a ni gitanerie, ni conquistador, ni mystique, ni Philippe II, ni Otto da Fé. Il néglige ou proscrit la couleur locale. Ce dédain indique un sentiment nouveau du roman historique. Ce dédain condamne Salambo sans appel. Il n'est pas moins stupéfiant de considérer des chapitres isolés. Examinons par exemple le chapitre 38 de la première partie qui traite du curieux discours que Don Quichotte fit sur les armes et les lettres. On sait que Don Quichotte, comme Quevedo, tranche contre les lettres et en faveur des armes. Cervantes était un vieux militaire, son arrêt s'explique, mais que le Don Quichotte de Pierre Ménard, homme contemporain de la trahison d'Éclair et de Bertrand Russell, retombe dans ses sophistications nébuleuses, Madame Bachelier y a vu une admirable et typique subordination de l'auteur à la psychologie du héros, d'autres dépourvus totalement de perspicacité, une transcription du Quichotte, la baronne de Bacour, l'influence de Nietzsche. À cette troisième interprétation, que je juge irréfutable, je ne sais si j'oserais en ajouter une quatrième, qui s'accorde fort bien avec la modestie presque divine de Pierre Ménard. Son habitude résignée ou ironique de propager des idées strictement contraires à celles qu'il préférait. Rappelons encore une fois sa diatribe contre Paul Valéry dans la feuille surréaliste éphémère de Jacques Reboul. Le texte de Cervantes et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est presque infiniment plus riche, plus ambigu, diront ses détracteurs. Comparer le Don Quichotte de Ménard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit Don Quichotte, première partie, chapitre 9, « La vérité dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Ménard écrit en revanche « La vérité dont la mère est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » L'histoire, mère de la vérité. L'idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que nous pensons qui s'est passé. Les termes de la fin, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir, sont effrontément pragmatiques. Le contraste entre les deux styles est également vif. Le style archaïsant de Ménard pêche par quelques affectations. Il n'en est pas de même pour son précurseur, qui manie avec aisance l'espagnol courant de son époque. Il n'y a pas d'exercice intellectuel qui ne soit finalement inutile. Une doctrine philosophique est au début une description vraisemblable de l'univers. Les années tournent et c'est un pur chapitre de l'histoire de la philosophie. En littérature, cette caducité finale est encore plus notoire. Le Quichotte, m'a dit Ménard, fut avant tout un livre agréable. Maintenant, il est un prétexte à toast patriotique, à superbe grammaticale, à édition de luxe indécente. La gloire est une incompréhension peut-être la pire. Ces constatations nihilistes n'ont rien de neuf. Ce qui est singulier, c'est la décision que Pierre Ménard en fit dériver. Il décida d'aller au-devant de la vanité qui attend toutes les fatigues de l'homme. Il entreprit un travail très complexe et a priori futile. Il consacra ses scrupules et ses veilles à reproduire dans une langue étrangère un livre préexistant. Il multiplia les brouillons, corrigea avec ténacité et déchira des milliers de pages manuscrites. Il ne permit à personne de les examiner et eut soin de ne pas les laisser lui survivre. C'est en vain que j'ai essayé de les reconstituer. À la réflexion, je pense qu'il est légitime de voir dans le Quichotte final une sorte de palimpseste dans lequel doivent transparaître les traces ténues mais non indéchiffrables de l'écriture préalable de notre ami. Malheureusement, seul un second Pierre Ménard, en inversant le travail de son prédécesseur, pourrait exhumer et ressusciter ces villes de Troie. Penser, analyser, inventer, m'écrivit-il aussi, ne sont pas des actes anormaux, ils constituent la respiration normale de l'intelligence. Glorifier l'accomplissement occasionnel de cette fonction, thésauriser des pensées anciennes appartenant à autrui, se rappeler avec stupeur, une stupeur incrédule que le docteur universaliste a pensé, c'est confesser notre langueur ou notre barbarie. Tout homme doit être capable de toutes les idées et je suppose qu'il le sera dans le futur. Ménard, peut-être sans le vouloir, a enrichi l'art figé et rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle, la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées. Cette technique, aux applications infinies, nous invite à parcourir l'Odyssée comme si elle était postérieure à l'Énéide, et le livre « Le jardin du centaure » de Madame Henri Bachelier, comme s'il était de Madame Henri Bachelier. Cette technique peuple d'aventure les livres, cette technique peuple d'aventure les livres les plus paisibles. Attribuer l'imitation de Jésus-Christ à Louis-Ferdinand Céline ou à James Joyce, n'est-ce pas renouveler suffisamment les minces conseils spirituels de cet ouvrage ? Fin. Alors, c'est un texte que Borges avait écrit parce qu'il s'était donné un grand coup sur la tête et il voulait s'assurer que sa pensée était claire et qu'il arrive à pondre des textes un peu complexes. Et voilà. Voilà. C'est assez drôle. Ah oui, oui. Eh bien, le texte, il a été écrit. Attendez. Voilà. Voilà, voilà, qui est aux éditions de la Pléiade. Voilà.
Bon, et ben, voilà pour aujourd'hui. La suite demain à 11h, librairie Miragip, à Gif-sur-Yvette, et ensuite pique-nique dans la Pampa. Et on vous demande de venir avec un bouquin qui vous a plu et pour échanger avec vos camarades. Donc voilà. Il y a les rencontres en librairie ce soir, non mais j'ai déjà tout récité plusieurs fois, donc je ne veux pas fouler les jambes.